Donc, nouvelle séquence sur l'Alliance, en partant de cette idée que le récit de la scène parle de la nouvelle Alliance. Et donc, c'est un texte qui est tout à fait intéressant dans la mesure où ça reprend un épisode qui est régulièrement convoqué dans les églises chrétiennes, hein, puisque c'est la célébration de la scène qui est devenue un sacrement, et que bien souvent nous en faisons un usage qui, de mon point de vue, est quasiment sans rapport avec l'esprit initial du texte. C'est-à-dire que aujourd'hui, le sacrement de la scène est souvent utilisé comme mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus. Et en fait, il y a beaucoup plus à entendre dans ce texte, à mon avis, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, le récit de la scène, vous le trouvez aussi bien dans l'évangile de Matthieu que celui de Marc, que celui de Luc, que chez Paul dans la première épître aux Corinthiens. Et si je vous ai mis Luc et Marc, c'est parce que ce sont deux versions qui sont peut-être les plus éloignées, sachant que celle de Luc est très proche de celle de Paul. Et on va voir où est-ce que justement ça varie. Chez Jean, il y a bien le dernier repas, mais on n'a pas le récit de l'institution. Par contre, on a tous les dialogues qui se tiennent pendant le dernier repas, avec en plus le lavement des pieds. À partir du chapitre 13, vous avez tout le récit du dialogue entre Jésus et les disciples, du moins une restitution possible, alors que chez les évangiles dits synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, qui suivent un ordre assez semblable, c'est beaucoup plus condensé.
Bon, et il y a Jean 6.
Avec la notion de pain de vie, ouais, qui peut être effectivement une sorte d'institutionnalisation, mais qui rapporte cela à la manne dans le désert, alors qu'on va voir que Matthieu, Marc et Luc rapportent ça plutôt à Exode 24 qu'on a vu la dernière fois, et puis à un autre récit qu'on va trouver dans les écrits intertestamentaires de Qumran. Bon, quand vous imaginez le repas raconté pour la scène, vous pensez que ça se rapporte à quelle fête juive? C'est la Pâque. Et donc, vous vous dites que Jésus est en train de célébrer la Pâque. Bon, si je vous le dis comme ça, évidemment, vous allez dire, il y a anguille sous roche, faudrait pas. Il y a un piège. Très bien. Sur le plan pédagogique, j'ai pas été très au point là. Donc, je vais montrer qu'à la fois on est dans le cadre de la Pâque, mais que c'est pas la Pâque qu'on est en train d'évoquer ici dans le texte. Donc, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Alors, le jour des pains sans levain, hein, les matzot, on le trouve notamment dans l'Ancien Testament. C'est la fête qui précède la Pâque. Et effectivement, quand on voit qu'on doit immoler la Pâque, on se dit qu'on va bien fêter Pâques. Alors déjà, le fait que ce soit dans le cadre de Pâques, ça peut dire deux choses. Il y a deux événements vraiment fondateurs pour la célébration de la Pâque. Le premier, la première fois qu'on célèbre la Pâque, c'est...
Après les dixièmes, la dixième
pédagogie. Oui, c'est ça, c'est concomitant, puisque on utilise le sang de l'agneau pour le mettre sur le chambranle des portes, pour éviter que le machrit, là, celui qui va tuer les premiers-nés, pour éviter donc qu'il rentre dans ces maisons-là. Donc la première chose, c'est la libération. C'est la première Pâque renvoie à l'Exode. Et la deuxième Pâque, elle renvoie à l'entrée en terre promise. Hein, c'est en Josué. Josué chapitre 5, donc le peuple a traversé le Jourdain, et une circoncision générale, et puis les pains sans levain, la Pâque. Et donc, quand on dit on célèbre la Pâque, c'est aussi bien la libération de la servitude que l'accès à cette terre promise. Donc Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions ». Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Et il leur dit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. » Alors là, ça a donné l'idée à quelques exégètes que on était face à quelque chose de bizarre, à savoir un homme qui porte une cruche d'eau. En principe, c'est les femmes, ce sont les femmes qui portent les cruches d'eau. Et ils se sont dit, si c'est un homme, dans ce cas-là, il se pourrait que ce soit un représentant de la communauté de Qumran. Donc, la communauté de Qumran, qu'on a souvent assimilée aux Esséniens, c'est une communauté monastique. Et forcément, les hommes prennent en charge l'intégralité de la vie quotidienne, puisqu'il n'y a pas de femmes. Et on aurait peut-être la trace que Jésus était proche de la communauté essénienne. Alors c'est intéressant, mais le texte grec ne nous permet pas cette hypothèse, parce que le terme qui est utilisé, ce n'est pas andros, qui serait l'homme au sens du masculin, mais anthropos, au sens de l'être humain. Donc, c'est juste traduire par un homme, mais ce pourrait être une femme malgré tout. Voilà. Peut-être qu'on aurait précisé que c'était une femme, si c'était vraiment une femme. Bon, il y a une incertitude là en tout cas. Donc vous verrez peut-être ici ou là des commentaires qui vous disent « c'est un homme, donc communauté essénienne ». Pourquoi pas, mais ce n'est pas aussi probant que cela.
Ce n'est pas forcément clair. Qu'est-ce que fait l'essénien à Jérusalem ?
Exactement, parce que pour les Esséniens, Jérusalem, c'est l'abomination. C'est une place souillée. Mais rien n'empêche de penser qu'il y ait aussi une partie des Esséniens qui, pour la fête de la Pâque, considèrent que c'est leur devoir d'être là où il y avait quand même le temple, même s'ils considèrent que le temple n'est plus digne d'être le lieu de culte. D'ailleurs, publicité gratuite, je crois qu'il y a à peu près un an ou un an et demi, il y a Anne Cattel-Berthelot, qui est un chercheur du CNRS, qui a fait un dossier dans Évangile Liberté sur Jésus et Qumran, son hypothèse étant que Jésus n'est pas de la communauté de Qumran. Qu'il s'oppose aussi d'ailleurs à la doctrine de Qumran. Donc si ça vous intéresse, le texte est à votre disposition. Ensuite, donc, il vous montrera une grande chambre haute meublée, et c'est là que vous préparerez la Pâque. Donc, la chambre qui est en haut, c'est devenu un classique pour désigner le lieu de la scène, le cénacle, la chambre haute. Ils partirent et ils trouvèrent comme lui leur avait dit. Et donc, il prépare la Pâque. Si vous voulez retrouver le déroulement de la Pâque, il suffit d'ouvrir une encyclopédie du judaïsme et vous cherchez à Seder, c'est l'ordre de la Pâque, et vous voyez tous les aliments qui sont nécessaires, par exemple un bout d'agneau, un bout de bœuf, des herbes amères, des matzot, des coupes de vin. Il y a d'ailleurs la coupe de vin, on va y revenir, donc je ne vous en parle pas tout de suite. Et puis le seder, c'est aussi des lectures, et donc il y a tout un ordonnancement qui vous permet de célébrer cela. Et donc si vous voulez retrouver le détail, vous cherchez à seder. Donc l'heure étant venue, il se mit à table et les disciples avec lui. Et là commence véritablement la célébration de la scène. Alors chez Luc, on a donc « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ».
Avant qu'on continue, une
oui.
question un peu banale,
oui.
mais intéressante par rapport à la peinture et la réception de,
oui.
de cette scène. Il se mit à table, le grec en épicène, je ne vois pas de table dedans, forcément.
Non,
il
n'y
a pas de trapèze. Ou...
C'est le principe du triclinium, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire
qu'il y a des coussins.
On étend des nattes ou des couvertures. Et on se met comme cela en trois. Voilà.
Alors, ce qu'on voit presque dans chaque peinture de cette scène, c'est en fait peu biblique. Il n'y a pas de table.
La représentation de Léonard de Vinci est tout à fait contraire à l'esprit, oui.
C'est intéressant parce que dans The Passion of the Christ, c'est bien Jésus qui a inventé la table à manger, si vous vous rappelez.
Exact. Je crois même qu'à un moment donné, chez Luc, il est bien question de clinot, hein, de mm-hmm. se pencher. Ouais. Et... Donc, le désir. Alors, le désir, ici, il est aussi bien le désir positif que le désir négatif. Il y a ici l'ouverture de la scène sur, justement, ce qui va arriver. Donc, il faut se dire que ce récit de la scène est écrit a posteriori, et donc, l'évangéliste Luc... qui connaît l'évangile de Marc et qui connaît la théologie de Paul, repense à ce que Jésus a fait. Et du coup, ce verset nous dit « Pour que les disciples soient prêts à affronter la crucifixion, la mort et l'absence de Jésus, il met en place ce rituel de la scène. » C'est-à-dire que ça, c'est une autre hypothèse pour pourquoi y a-t-il une scène plutôt que pas. C'est que Jésus, plutôt que de s'enfuir et d'échapper à ce qui va lui arriver, préfère une dernière fois rassembler ses disciples pour les équiper de manière à leur donner les moyens de surmonter et le deuil et l'horreur de la situation. C'est-à-dire qu'il renforce leur lien... par la commensalité, donc il renforce les liens fraternels, et en même temps, il leur donne un témoignage probant de ce qu'est l'amour. C'est-à-dire que Jésus, en les réunissant, va prendre soin d'eux, et prenant soin d'eux, ils augmentent leur capital d'affection. C'est-à-dire qu'ils sont dignes d'être soignés par Jésus, alors que Jésus aurait pu avoir mieux à faire à l'époque. À ce moment-là. Du coup, ça renforce leur sentiment de dignité. Ça, c'est une remarque a posteriori. Et donc, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. C'est, je considère que la chose la plus importante que nous ayons à faire en ce temps-là, c'est de donner des preuves tangibles d'amour et de fraternité. Car je vous le dis, je ne mangerai plus, donc il y a l'histoire de l'abstinence de Jésus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Jusqu'à ce qu'elle soit pleinement réalisée dans le règne de Dieu. Donc, pour l'évangéliste Luc, ça signifie que Jésus va être encore... en mesure de pouvoir consommer de la scène. Donc ça dit quelque chose de l'idée que l'évangéliste a des suites après la mort. C'est-à-dire que dans l'idée de l'évangéliste, par-delà la mort, une commensalité reste possible. Bon, le vrai problème arrive maintenant. Chez Luc et chez Paul. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. » Alors ça pose problème, parce que la coupe, elle va revenir après. Et quand vous voyez une célébration de la scène ou une eucharistie, vous voyez qu'on s'occupe du pain et ensuite du vin. On ne s'occupe pas du vin, puis du pain, puis du vin. Donc là, il y a une coupe en trop, en quelque sorte. Et donc, on peut se demander d'où sort cette coupe. Alors, il y a deux hypothèses. Il y a l'hypothèse, par exemple, de l'exégète François Beauvon, qui dit « c'est l'une des quatre coupes de la Pâque ». C'est-à-dire qu'à Pâque, il y a quatre coupes de vin que l'on va utiliser à différents moments et qui correspondent aux quatre verbes qui parlent de la rédemption d'Israël au moment de la sortie d'Égypte. Pour retrouver cela, vous allez dans le livre de l'Exode, au chapitre 6, les versets 6 à 7. Et vous voyez qu'il y a quatre actions, le fait d'être libéré d'Égypte, le fait de ne plus être soumis à des travaux pénibles, le fait que Dieu prenne pour lui ce peuple, puis il y en a un quatrième, que vous retrouverez. Donc l'idée qu'on prend l'une de ces quatre. Mais alors, problème, c'est laquelle des quatre? Si on ne la précise pas, c'est un peu étonnant. Alors, je formule une autre hypothèse, c'est qu'il y a une cinquième coupe. Enfin, ça, c'est pas une hypothèse, c'est qu'il y a une cinquième coupe, dans certaines traditions. C'est la coupe d'Élie, le prophète Élie. Quand on célèbre le Seder, il y a, chez certains, une tradition selon laquelle il faut aussi garder une place pour Élie. Non seulement on laisse la porte ouverte pour que le pauvre puisse venir, qu'Élie puisse venir, mais on prépare aussi une portion supplémentaire. Et cette portion supplémentaire, elle suppose une cinquième coupe. Et peut-être que cette cinquième coupe, c'est celle-ci. Auquel cas, vous voyez, il y aura une connexion entre la figure d'Élie et la figure de Jésus, ce qui ne serait pas la première fois dans les évangiles. La dimension prophétique. Ce qui permettrait de dire que Jésus est notamment prophète. Et on va voir ensuite qu'il n'est pas simplement prophète. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer. Donc, distribuez-la entre vous. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est offert aux disciples. Et ce n'est même pas une commensalité entre Jésus et les disciples. C'est vraiment quelque chose qui est destiné à... Et après Jésus, comment on fait? Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et ensuite, on retrouve notre récit classique. Récit classique que l'on trouve aussi chez Marc. Donc, il prit du pain, après avoir rendu grâce, donc c'est là qu'on retrouve le terme eucharistéo qui donne l'eucharistie, hein, dans la tradition catholique, donc dire merci en fait. Il le rompit et le donna à eux en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi, anamnésis, hein, c'est la mémoire qui remonte. Donc, ça vaut le coup de s'arrêter pas très longtemps sur lecture métaphorique ou pas de ce verset. Est-ce que c'est vraiment le corps de Jésus, au sens cellulaire du terme, ou est-ce que c'est une métaphore? Alors, il savait qu'il y a trois grandes écoles. Il y a l'école catholique qui dit transsubstantiation. Mais transsubstantiation, c'est compris de deux façons différentes. Transsubstantiation, ça veut dire que la substance est transformée, disons. Mais qu'est-ce que la substance? Pour certains, la substance, ça va être les molécules. Et donc, les molécules de pain vont devenir des molécules de sang. Mais pour d'autres, la substance, c'est, l'essence, mais au sens de quasiment l'esprit, pour faire simple. Vous voyez, l'essence d'un texte, c'est pas la page, c'est le message. La substance de quelque chose, c'est pas forcément la matière, ça peut être la fonction, ça peut être la vocation. Et dans la théologie catholique, il ne faudrait pas imaginer que la transsubstantiation ne désigne que le fait que les molécules se transforment. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, dans la philosophie aristotélicienne, la substance, elle désigne moins la matière que ce à quoi sert la matière. Et donc, la transsubstantiation peut être comprise de façon métaphorique par les théologiens catholiques, c'est le cas des théologiens de Strasbourg. Deuxième école, l'école luthérienne, la consubstantiation. Alors, ça, c'est la version la plus pénible, je trouve. C'est-à-dire qu'il va y avoir et des molécules de pain et des molécules de corps. C'est-à-dire que, du coup, on est sûr qu'on est attaché à la question de la matérialité moléculaire de Jésus. Hein? Consubstantiation, c'est-à-dire qu'il y a deux substances conjointes. Donc, c'est une présence réelle. Et puis, la troisième version, c'est avec Calvin, et puis de façon peut-être plus radicale encore avec Zwingli, par exemple, la présence spirituelle, comme on dit souvent, qui est une présence véritable. Véritable, désignant le fait qu'il y a une présence, mais qui n'est pas enfermée, enclose, dirait Calvin, dans des éléments matériels. Et il me semble que cette troisième version est intéressante parce que « ceci est mon corps », c'est une phraséologie très courante dans les textes bibliques pour tous les gestes prophétiques. Un prophète va pouvoir prendre une brique et dire « cette brique, c'est Jérusalem ». Cette brique, c'est pas Jérusalem, autrement que c'est un élément qui va nous faire penser à la situation de Jérusalem. Si je mets un joug sur mes épaules, ça reste un objet joug, mais ça me fait penser à, par analogie, à la situation de quelqu'un qui est asservi. Et quand Jésus dit « je suis la porte », je suis la lumière c'est le plus criant peut-être. On voit bien que Jésus, c'est pas une sorte de filament incandescent qui nous dispenserait de prendre un contrat ERDF. Et donc, on est bien dans le registre de la métaphore, et ce qui serait curieux, c'est que là, d'un seul coup, on ne soit plus dans le registre de la métaphore. Ceci dit, ça nous emmène dans un paradoxe entre luthériens et réformés tout à fait intéressant. C'est que pour que les réformés disent c'est spirituel, Jésus n'est pas matériellement présent, ils vont, à l'époque de Calvin, dire du coup il faut prendre au sens littéral l'ascension. Parce que c'est à la condition que Jésus ne soit vraiment plus matériellement présent sur terre, qu'il ne le sera pas non plus dans le pain et dans le vin, et donc qu'il faut faire une lecture spirituelle. Et ça, c'est un paradoxe. En fait, il suffit de dire que Jésus est vraiment mort pour qu'il ne soit pas dans le pain et dans le vin. Mais à l'époque des réformateurs, du coup, il y a une lecture littérale de l'ascension pour avoir une lecture métaphorique de la scène. Et pour les luthériens, ça va être l'inverse. Pour les luthériens, il va y avoir une lecture littérale de la scène avec une lecture métaphorique de l'ascension. Ça, c'est un vrai paradoxe. Et scorer l'histoire. Donc, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, diatéké. » Alors, diatéké, c'est intéressant parce qu'il y a dia. Et dia, c'est à travers. Il y a l'idée de séparation. Et diatéké, c'est le terme qui traduit déjà berit, le terme hébreu. Et donc, diatéké, c'est utile pour parler de l'alliance où on coupe bien les animaux et on passe à travers ces animaux-là. Donc, on retrouve bien la dynamique, le mouvement. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Bien. Avant d'aller chez Marc, je vais du côté de Qumran pour vous donner, à mon avis, le sens de cela. Les textes de Qumran donc sont tout à fait disponibles. Vous en avez quelques versions dans la Pléiade, les écrits intertestamentaires, et de façon générale, ils ont été édités à chaque fois qu'on arrivait à les traduire, etc. Donc vous avez des maîtres de rayonnage de ce qu'on appelle les découvertes de la mer morte. C'est souvent en anglais, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas d'oukase, il n'y a pas de mystère qui serait gardé au chaud dans les caves du Vatican, que ce soit. Tout a été mis à la disposition des chercheurs et du public. Donc je vous rappelle, c'est en 1947 qu'on trouve dans une grotte, puis dans d'autres grottes, dans un site Qumran qui est au-dessus de la mer morte, des manuscrits qui remontent à quelques dizaines, centaines d'années avant Jésus. Alors que jusque-là, le plus vieux manuscrit qu'on avait pour l'Ancien Testament datait du 11e siècle de notre ère. Donc ça nous fait un grand retour. Et quand on regarde, il y a quand même assez peu de différence. Mais c'est surtout qu'on trouve d'autres textes. Et on trouve par exemple le Testament de Lévi. Alors, le Testament de Lévi, c'est intéressant parce que c'est un des textes qui va nous montrer qu'il y a un lien, c'est là que je veux vous emmener, un lien entre le repas, Dieu et les prêtres. Donc, on parle de trois lots, et puis on dit au verset 16, « Tout ce qu'il y a d'enviable en Israël t'appartiendra ainsi qu'à ta descendance. Vous mangerez tout fruit agréable à voir, et ta descendance recevra la table du Seigneur en partage. Parmi eux, il y aura des prêtres, des juges et des scribes. » Donc, on a cette première idée selon laquelle la question de la table et le rapport avec Dieu appartient aux prêtres. Les jubilés, verset 16 du jubilé chapitre 31, « Ta mère t'a appelé du nom de Lévi, donc c'est une des tribus, et c'est cette tribu-là qui a les prêtres, les sacrificateurs. C'est à juste titre qu'elle t'a appelé de ce nom. Tu seras l'intime du Seigneur et son commensal, donc celui qui mange avec lui, d'entre tous les fils de Jacob. Que sa table t'appartienne et que toi et tes fils y mangiez. Que ta table soit pleine en toutes les générations et que la nourriture ne te fasse défaut en nul âge. Que tous ceux qui te haïssent succombent devant toi. » Bon, puis après, il y a les formules de bénédiction et malédiction. Donc, vous voyez, une autre attestation que la table du Seigneur, c'est quelque chose qui relève de la responsabilité des Lévites. Testament de Judas. Le verset 5 du chapitre 21. « Car un ange du Seigneur me dit, le Seigneur l'a préféré à toi, parlant de Lévi, je vous ordonne d'aimer Lévi, le Seigneur l'a préféré à toi pour l'approcher, manger à sa table, et pour lui offrir les délicieuses prémices des fils d'Israël. Mais toi, tu seras roi de Jacob. Hein, » donc, le roi de Jacob, ça serait bien chez Judas. Par contre, la proximité, l'intimité avec Dieu, c'est pour Lévi. Et ça se fait à travers la table. Et je vous avais déjà dit la fois dernière au sujet des rites sacrificiels, que les rites sacrificiels n'étaient pas là pour obtenir le pardon des péchés, obtenir les purifications, les guérisons, etc. Les rites sacrificiels étaient là pour finaliser le fait que nous restons dans l'intimité avec le divin. C'est-à-dire que le repas est là pour organiser ce qu'on appelle la commensalité, donc le fait que quand on est à table, on est dans un registre de copinage, pour reprendre l'étymologie, quoi. Même si ce n'est pas très élégant pour le divin. Bon. Alors, reste en suspens, et le pain et le vin, ils sortent d'où ? Parce qu'on nous dit toujours, c'est le récit de Pâques, etc., mais le récit de Pâques, c'est quand même de l'agneau, quoi. Hein, bon. Et alors, à mon avis, le testament de Lévi nous offre la solution. Au chapitre 8, « Là, de nouveau, j'ai une vision semblable à la première. Après que nous eûmes passé en cet endroit 70 jours, je vis cet homme en blanc qui me disait « Lève-toi et revêt la robe du sacerdoce, la couronne de justice, le pectoral d'intelligence, la tunique de vérité, la plaque de la foi, le diadème du miracle et l'éphod de la prophétie. » Donc, revêt la robe du sacerdoce, ça veut dire « Tu deviens prêtre. » Hein, c'est le rite d'intronisation du grand prêtre, en fait. C'est le rite avec l'éphod. C'est le rite d'intronisation du grand prêtre. Et le rite d'intronisation du grand prêtre continue ainsi. « Chacun des hommes me remit ce dont il était chargé en ces mots. Dorénavant, sois prêtre du Seigneur, toi et ta descendance à jamais. Le premier moignit d'une huile sainte et me donna le sceptre du jugement. Le deuxième me lava d'une eau pure, me nourrit de pain et de vin, aliment suprêmement saint. » Et donc, manger le pain et le vin, manifestement, c'était dans le rite d'intronisation du grand prêtre. Alors, ça indique pourquoi c'est du... Non, c'est presque plus simple que cela. C'est que quand on prend le livre du Lévitique, je dis qu'il y a trois classes de sacrifices, et la plus honorable, c'est-à-dire celle qui est la mieux vue aux yeux de Dieu, qu'est l'anthropomorphisme, celle qui dit le plus le sacré, c'est l'offrande végétale. le pain et le vin. Non pas le lait, parce que le lait, c'est un produit naturel, alors que le pain et le vin sont des produits culturels. C'est-à-dire qu'il y a une transformation par la main de l'homme sur ces produits naturels. C'est la raison pour laquelle le jus de raisin, c'est pas super, super, je trouve, pour la Seine, parce qu'il n'y a pas eu le travail de l'homme véritablement. Le jus de raisin, on peut l'avoir comme ça, en quelque sorte. Le vin, il faut qu'il y ait un processus de vinification, et donc c'est pas naturel. Le pain, pareil, ça se cueille pas au bout des épis. L'huile, éventuellement, peut être un produit culturel. Parce que l'huile, on ne l'a pas tout à fait comme ça. Il faut quand même broyer. Et donc, c'est à la fois l'idéal végétalien du début de la Genèse, et puis la présence bénéfique de l'homme au sein de la création. Donc, mon hypothèse est que, ici, on a un récit d'intronisation du grand prêtre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un récit d'intronisation du grand prêtre où Jésus n'est pas le seul à en profiter, puisqu'il le partage avec ses disciples. Et alors moi, je vais jusqu'à dire que c'est le récit d'intronisation du grand prêtre qui introduit le principe du sacerdoce universel. Puisque tout le monde est capable d'être prêtre avec ce Jésus. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de partage de la prêtrise, de la haute prêtrise. Quand je dis introduction du sacerdoce universel, le livre de l'Exode parle déjà d'Israël comme d'une nation sainte, hein, d'une prêtrise étendue largement à venir. Mais ici, c'est réactualisé. C'est une sorte de nouvelle alliance. C'est-à-dire qu'on réinstaure cette proximité entre le divin et chaque membre de la communauté. Ouais.
On a dit que Jésus avait fait partie du groupe de ses séminaires.
Oui.
On a dit que...
Oui, oui.
Que Jésus avait fait partie...
Oui, on a dit ça aussi de Jean-Baptiste.
Oui.
Ouais. Est-ce que c'est vrai ?
Non. Mais est-ce qu'il peut y avoir eu une influence culturelle ?
Bon, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'y a pas eu d'influence. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne parle jamais des Esséniens au sens strict du terme dans les évangiles. Et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille de certains en disant « ça veut dire que Jésus était Essénien, puisqu'il n'en dit pas du mal ». Alors il y a une ou deux phrases où il parle des fils de la lumière, et c'est une façon de désigner les Esséniens, et il n'en parle pas de façon très positive quand même. Mais Jésus était sadducéen, ça n'a pas empêché qu'ils disent du mal des sadducéens. Bon. Probablement il avait été à l'école des pharisiens, ça n'empêche pas qu'ils disent du mal des pharisiens. C'est-à-dire qu'ils disent ce qu'il a à dire. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il a été Essénien ? Je pense que... L'argument de Martine est quand même le meilleur, c'est-à-dire que les Esséniens, c'est une communauté de purs. Ils se retirent près de la mer morte de façon à ne pas être contaminés avec toute cette impureté. Ça va très loin, hein, c'est-à-dire que si vous regardez la topographie du site de Qumran, on constate que les latrines donnent sur le vide de façon à ce que les excréments ne souillent pas la communauté. Donc il y a vraiment une obsession de la pureté rituelle. Et du coup, effectivement, fréquenter Jérusalem, une sorte de grande prostituée, hein, ça colle pas très bien. Maintenant, c'est une communauté, à supposer que ce soit une communauté essénienne, hein, c'est encore en débat, bon. À supposer que ce soit une... Enfin, quelle que soit la communauté, c'est une communauté où on a retrouvé beaucoup de manuscrits, donc il y avait beaucoup d'écrits. Et ces écrits ont pu circuler éventuellement, aussi bien les idées que les règles de conduite. Il y a la règle de Qumran dont je vais vous parler un tout petit peu après. Peut-être que des idées ont pu comme ça transpirer, ce qui serait normal d'ailleurs. On peut trouver des arguments en faveur d'une proximité d'idées, et puis on trouve des arguments en faveur d'une opposition. Une fois de plus, quelle conclusion on tirait ? Jésus était un homme assez libre. Peut-être le vrai fondateur de l'auberge espagnole, mais ça, c'est à voir. Bon, je finis juste un petit mot sur ce qui arrive et qui est un petit peu triste. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Alors, deux choses. Donc, on parle manifestement de Judas Iscariote. Prenez le texte tel qu'il est, il est plutôt bien traduit, pour ce qui est du verbe. C'est pas un homme qui va trahir Jésus, c'est un homme qui va le livrer. Et ça, pour moi, c'est vraiment déterminant. J'avais eu l'occasion de faire une étude biblique qui est encore en ligne sur la figure de Judas, donc je ne m'étends pas, mais l'idée que je suggérais, c'est que Judas voit que ça va vraiment mal tourner pour Jésus. Judas est peut-être l'un des disciples les plus zélés, les plus aimants vis-à-vis de Jésus. Il veut sauver Jésus. Il se dit, la meilleure façon de sauver Jésus, c'est qu'il soit en prison. Comme ça, ça lui évitera la lapidation de se faire attraper et lyncher par le peuple. Et du coup, il le vend comme un autre Judas l'avait fait avant lui. Judas, l'un des 12 enfants. Et comme Joseph avait suscité beaucoup de jalousie parmi ses frères, certains avaient dit, on va le tuer, on va le liquider. Et Judas, donc sans S si on veut, avait dit, non, on n'a qu'à le vendre, et ils le vendent à des marchands qui passent. Et ça lui laisse la vie sauve, et d'ailleurs après, peut-être que Judas Iscariote se dit, je vais faire pareil. Et c'est tout le problème, c'est que les recettes d'autrefois, appliquées à la lettre, ne marchent pas forcément aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle il aura ce remords, qu'il se pendra, etc. C'est une hypothèse qui, moi, je trouve être assez satisfaisante. Et le texte dit bien que Judas ne trahit pas Jésus, il le livre. Moyennant quoi, malheur à cet homme, oui, parce qu'il ne se rend pas compte qu'il a tort de vouloir bien faire comme cela. Et voilà ce qui est déterminé. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. C'est un peu comme s'il y avait un destin qui s'abattait implacablement. Le verbe, le terme grec qui est sous-jacent, c'est le même que pour la prédestination, c'est horizo. Vous voyez, ça donne l'horizon. C'est-à-dire que je ne saurais pas vous dire si c'est vraiment déterminé. Moi, je dirais c'est dans l'ordre des possibles. C'est-à-dire que, voilà, ça fait partie de l'horizon de cette personne. Mais certainement, il y a quelque chose de plus coercitif dans ce terme-là. C'est-à-dire que c'est quand même un horizon plutôt qu'un autre. Mais je n'ai pas le sentiment que... D'un côté, vous me direz, les sentiments, ce n'est pas très scientifique. Je n'ai pas le sentiment qu'il faille y lire le destin qui s'exerce implacablement. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est possible. C'est-à-dire que c'est une éventualité. Contre Pierre qui dit « Non, ça n'arrivera pas », Jésus a toujours dit « Ben, t'es bien malin, toi, pour savoir que ça va pas arriver. » Et malin au sens du malin, quoi. Arrière de moi, Satan. C'est-à-dire ce Pierre qui veut faire la volonté de Dieu, que Dieu le veuille ou non, quoi. Une sorte de fanatisme. Avant de passer à Marc, des questions sur Luc ? On voulait un peu de Marc, quand même. Bien. Donc, avec Marc, en fait, on va retrouver essentiellement la même chose. C'est juste que je vais vous montrer un ou deux détails qui nous font penser à cette communauté des Esséniens. Un peu, voilà, pour ne pas résoudre la question définitivement et laisser le dossier ouvert. Donc, on est toujours le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, et les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions préparer la Pâque ?» Donc il les envoie, toujours un homme portant une cruche d'eau, et c'est toujours un anthropos. Alors, quelque part qu'il entre, dit au maître de la maison, le maître dit « Où est le disciple ? Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, toute prête, c'est là que vous préparerez la Pâque. Donc vous voyez, on est vraiment comme dans l'évangile de Marc. Donc, on est. Oui, en fait, c'est ce que je voulais dire, l'évangile de Luc est vraiment comme dans l'évangile de Marc, parce qu'il y a une intériorité de Marc, sur le plan de la rédaction, je veux dire, manifestement. Donc, c'était pour vous dire que l'hypothèse qui est souvent formulée, c'est que Luc, l'évangéliste, utilise aussi bien l'évangile de Marc que ce qu'on appelle le bien propre, Le bien propre, c'est une tradition qui lui appartient et qu'il a pu essentiellement constituer auprès de Paul, l'apôtre Paul. Il y a l'hypothèse de François Bauvon, que j'aime assez, qui me semble tenable, c'est de dire qu'en fait, on a deux traditions qui correspondent à deux lieux. C'est-à-dire qu'on aurait une tradition issue de Jérusalem et une tradition issue d'Antioche. Et Luc pourrait être porteur aussi d'un bien propre qui vient d'Antioche. Il fusionne les deux. Antioche, qui est un lieu qui a pu être, comme cela, un foyer de réflexion. Enfin, Antioche va être une sorte de capitale religieuse, même si ça ne semble pas évident de nos jours. Et donc, autour de la communauté primitive de Jérusalem, dont on dit qu'elle était d'abord menée par Jacques, qui peut être le frère de Jésus, puis par Pierre, qui prend sa suite, parce que Jacques se fait zigouiller par, peut-être par Paul d'ailleurs, par ceux qui font la police religieuse. Donc on a une communauté primitive là, et puis on a les hellénistes. Les hellénistes, avec notamment Paul, etc., la communauté des sept, parfois on l'appelle comme ça, elle pourrait donc être plutôt du côté d'Antioche. Et donc on aurait une fusion que l'on voit avec Luc. Donc les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque, tout va bien. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Donc vous voyez, les 12... on ne les avait pas chez Luc. Je vérifie, mais c'est une manière de nommer les disciples qui n'a pas été retenue là dans ce récit précisément. Ensuite, pendant qu'ils étaient à table, donc même motif, même réflexion sur la présence ou non de la table. Jésus leur dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Donc on a encore le terme livré, paradidomie, qu'on retrouve dans tous les évangiles. Donc c'est pas juste une vue d'un des évangélistes. C'est dit. Pardon ? Paradidomie chez Jean. Aussi. Avec la mention spéciale pour Jean que, sauf de ma part, il y a l'esprit de Satan qui rentre dans Judas, qui pour moi est cohérent, c'est-à-dire que c'est une façon de dire que Judas se trompe, c'est-à-dire que sa stratégie n'est pas la bonne. Donc il a le regard voilé en quelque sorte. Une fois de plus, pétri de bonnes intentions, il reprend la recette du passé, mais il n'a pas l'intelligence de la situation. Et l'esprit de Satan, ça peut être cela, c'est finalement, c'est comme la tentation de Jésus dans le désert, c'est se tromper d'essentiel. L'un de vous qui mange avec moi donc me livrera. Donc ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, est-ce moi ? Est-ce quand même étrange, hein ? Ils ne savent pas trop comment les choses vont se dérouler. Mais à la limite, c'est même à se demander si certains ne retireraient pas un motif de fierté à être celui qui va le livrer à entrer dans l'histoire. Est-ce que c'est moi ? Non, ils commencent à s'attrister, donc il n'y a pas de réjouissance. Restons fidèles au texte. Vous avez vu comment je vous ai embarqué là ? Ça, c'est moche, il faut résister. Hein. Non, par contre, ils ne sont pas du tout sûrs d'eux et ils ne. Ça montre que ce sont vraiment des personnes qui ne comprennent pas grand-chose à ce qui se passe. Ce sont vraiment des gens perdus, en fait. Ce qui est sympathique, parce que Jésus mange avec eux. Et s'il mange avec eux, c'est-à-dire que nous aussi, on a le droit de participer à la scène. Même celui qui le livre met la main dans le repas avec lui. Bon. Il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Donc en général, quand il y a un film, on voit Judas qui est en train de prendre en même temps quelque chose dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Alors, qu'est-ce qui est Gegraptai ? Ça, vous voyez, c'est le genre d'indication très, très ambiguë. Parce que le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit, mais ça fait référence à quelle écriture ? Est-ce que, effectivement, c'est la brebis que l'on mène vers l'abattoir, le serviteur souffrant de l'Ésaïe 53 ? Le Fils de l'homme, c'est une expression que l'on trouve bien sûr chez Ézéchiel, mais celle qui est en principe la plus marquante, c'est dans le livre de Daniel, Daniel 7, avec la vision d'un fils d'homme. Ce n'est pas le fils de l'homme, c'est fils d'homme, qui arrive dans une sorte de gloire. Et il y a quand même l'idée de l'eschatologie dans ce repas. Je ne le boirai plus jusqu'au jour où je le boirai avec vous de nouveau dans le royaume de Dieu, etc. C'est quand même le repas eschatologique, c'est l'anticipation du plérôme, c'est-à-dire le temps complètement accompli, voilà, totalement réalisé. Et donc, il est possible qu'on ait là une référence plutôt à Daniel 7, mais je conçois qu'en vous disant cela, ça ne fait pas beaucoup avancer la compréhension du texte. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Deux façons de le comprendre. Soit c'est parce que c'est par cet homme que le malheur arrive, et donc il aurait mieux valu qu'il ne naisse pas pour éviter d'infléchir le cours du destin de cette manière. On peut le comprendre comme mieux aurait valu qu'il ne naisse pas pour qu'il n'ait pas à subir ce qu'il va subir. C'est-à-dire que il va être face à l'insurmontable, en fait. D'ailleurs, il ne va pas réussir à le surmonter. En dépit du fait qu'il y a ce repas de fraternité, ça ne va pas suffire à ce qu'il puisse surmonter cette épreuve-là. Il aurait été bon pour lui, en fait, bon pour lui qu'il ne naisse pas, cet homme. Et pendant qu'il mangeait, il prit du pain. Là, il bénit. C'est pas Eucharistéo, c'est pas rendre grâce en fait. C'est Eulogia, c'est la bénédiction, c'est la bonne parole. Il le rompit et le donna à eux et il dit prenez, ceci est mon corps, on n'y revient pas. Il prit ensuite la coupe, cette fois il rendit grâce, et la leur donna, et ils en burent tous. Mais il y a une petite reprise. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. Ça c'est Exode 24. C'est quand Moïse a récupéré le sang des animaux qui ont été sacrifiés, qu'il l'asperge sur le peuple, probablement sur les pierres qui tenaient lieu de peuple. Et donc le sang de l'Alliance, vous voyez, on le retrouve ici. Et donc, c'est pour cela que je vous disais qu'Exode 24 était certainement un sous-texte à la scène, puisque en Exode 24, il est question du corps et du sang. Le corps de l'animal et le sang de l'animal. Et que c'est vraiment un rite de commensalité, là aussi, avec le peuple. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs. Alors c'est là que c'est intéressant, et que je rouvre le dossier que je venais de fermer, sur les poloi. Plusieurs. On avait répandu pour vous, chez Luc, et là c'est répandu pour plusieurs. Si on prend la règle de la communauté de Qumran, on découvre que les plusieurs, les nombreux, ça désigne les membres de la communauté de Qumran. C'est ça qui est assez étrange. Et quand on regarde comment ça se passe pour rentrer dans la communauté de Qumran, ça se passe de la manière suivante. Quiconque issu d'Israël sera volontaire pour s'adjoindre au conseil de la communauté, l'homme qui est l'inspecteur à la tête des nombreux, donc là c'est Paulos, hein, l'examinera sur son intelligence et sur ses actes. Et s'il est apte à la discipline, il l'introduira dans l'alliance pour qu'il se convertisse à la vérité et qu'il se détourne de toute perversité. Et il l'instruira de toutes les ordonnances de la communauté. Et ultérieurement, quand il viendra pour se présenter devant les nombreux, ils délibéreront, eux tous, sur son cas. Et selon ce que le sort prononcera après la décision des nombreux, il s'approchera ou bien il s'éloignera. C'est après que les choses vont commencer à être intéressantes. Et quand il s'approchera du conseil de la communauté, il ne touchera pas à la purification des nombreux avant qu'on ne l'ait examiné sur son esprit et sur ses actes, avant qu'il n'ait achevé une année entière. Donc il a une période de probation. Et en outre, qu'il ne mêle pas ses biens à ceux des nombreux. Qu'il ne mêle pas ses biens à ceux des nombreux. Mais c'est ce qu'on trouve dans le livre des actes, ça. Il mettait tout en commun. Puis, quand il aura achevé une année à l'intérieur de la communauté, les nombreux délibéreront sur son cas, selon son intelligence et ses actes, en ce qui concerne la loi. Et si le sort prononce qu'il s'approche de la société de la communauté, après la décision des prêtres et de la majorité des membres de leur alliance, on versera aussi ses biens et les revenus de son travail dans la main de l'homme qui est l'inspecteur des revenus des nombreux. Et donc, on est bien dans le partage total des biens, comme on a dans cette communauté primitive dont parle Luc dans le livre des Actes. Mais on inscrira ceci en compte à son crédit, sans le dépenser au profit des nombreux. Il ne touchera pas au banquet des nombreux avant qu'il n'ait achevé une seconde année au milieu des membres de la communauté. Autrement dit, on retrouve cette idée de repas qui va sceller l'entrée dans la communauté. Et entrer dans la communauté, c'est rentrer dans la communauté de l'Alliance. Et donc, le repas, c'est ce qui finit d'entériner l'entrée dans l'Alliance, l'entrée dans la communauté. Alors, que tirer de cela ? Qu'on est vraiment dans un récit qumranien ? Bon, en fait, il ne faut pas imaginer que Qumran soit une communauté complètement isolée. C'est-à-dire que c'est une communauté qui plonge ses racines dans la tradition biblique et dans la tradition d'Israël. Et elle a simplement porté au niveau d'une communauté particulière des enseignements qui étaient ceux du peuple d'Israël, rapportés au fait que c'est une communauté qui va incarner la prêtrise. Alors que dans le peuple d'Israël, on a tout un tas de fonctions possibles et imaginables. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Alors, je finis en vous rendant attentif au fait qu'après tout, il se pourrait que ces évangiles finissent comme ils ont commencé. Je ne vous ai pas mis Matthieu parce qu'en fait, ça peut être le pendant du début de l'évangile de Matthieu. C'est une hypothèse, hein. On est là pour faire des hypothèses. Donc vous avez entendu que Jésus avait un geste prophétique en disant « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Comme d'autres vont dire « voilà, ceci et cela, et ceci représente cela bon. ». Donc Jésus peut être prophète. Un récit d'intronisation du grand prêtre. Jésus est prêtre. Mais tout ça est coordonné au fait qu'on parle du règne de Dieu. Jésus est roi aussi. Ben ça, vous le retrouvez dans le début de l'évangile de Matthieu. À quel moment ? Question de catéchisme. Avec les mages, qui n'étaient ni roi ni roi. Parce qu'ils apportent de la myrrhe, de l'encens et de l'or. La myrrhe, c'est ce qui représente classiquement l'homme, parce que c'est ce qu'on utilise aussi pour l'embaumement. Ça pourrait être la figure du prophète. L'encens, c'est la figure du prêtre. Et l'or, c'est l'objet du roi, en fait. Donc, il se pourrait que on ait là, chez Marc, les signes qu'il n'a pas pu donner au début, puisqu'il n'y a pas d'évangile de la naissance, donc il n'y a pas d'arrivée de mage, etc., mais qui désigne quand même trois qualités de Jésus: roi, prêtre et prophète. Donc, on peut aussi entendre ce repas, ce dernier repas, comme celui qui manifeste ce que Jésus est pleinement. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, dit Luc, qui lui aussi a les trois catégories, du coup, en s'inspirant de Marc. Mais ce serait une façon de dire la révélation s'accomplit pleinement dans ce repas, alors que les autres lieux de révélation ne révèlent jamais qu'une partie de l'identité de Jésus. C'est peut-être en ce sens aussi que la scène a une dimension sacramentelle qui me semble intéressante, c'est qu'elle dit quelque chose de juste sur l'identité de celui qui prend ce repas. Il est roi, prêtre et prophète. Oui. Ça sera du vin nouveau. C'est pinot comme le vin et kainon, c'est pas de nouveau. C'est pas encore une fois. Alors, le vin représente le sang. Le sang représente la vie. Si le vin est nouveau, c'est que la vie est nouvelle. Donc, il s'agit de dire que la vie des uns et des autres va être portée à une nouveauté d'existence. C'est le principe du baptême. Le baptême, et Luther le dit très bien, c'est faire mourir le vieil homme pour que naisse le nouvel homme. Et donc, dans la mesure où le vin est une métaphore, eh bien, je pense qu'il faut aller au bout de cette métaphore en disant qu'il est question de la vie nouvelle. Et nouveau, ça se rapporte ici à vin, sauf erreur de ma part. D'autres questions ? Bon, eh bien, c'est super.